La science peut-elle avoir raison de toutes nos croyances? Deuxième partie. Alors, pour résumer, l'idée principale de la première partie, il s'agissait dans la première partie de voir la position scientiste, c'est-à-dire la position qui est la plus favorable à la science, qui considère que, en effet, parce que la science a progressé depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas à progresser et qu'elle ne substitue pas des vérités scientifiques à ce qui, aujourd'hui, est encore l'objet de croyances. Cette position, elle est évidemment rationaliste, c'est-à-dire qu'elle considère que la raison est une capacité qui peut nous permettre d'accéder à la vérité et même au savoir absolu. Cependant, il est intéressant de constater que malgré les énormes progrès de la science dans divers domaines, eh bien, les croyances, et quand on parle de croyances, on parle de croyances au sens très général du terme et pas seulement des croyances religieuses, donc bah, ces croyances, elles sont toujours très persistantes. Beaucoup, beaucoup de gens, par exemple, croient en l'astrologie. Beaucoup de gens croient que notre personnalité, par exemple, est dépendante, déterminée par notre signe astrologique, c'est-à-dire la position des astres dans le ciel au moment de notre naissance. Or, faire le lien entre la position des astres à notre naissance et notre vie, aujourd'hui, notre personnalité, ben, finalement, ce n'est pas très, très logique, ce n'est pas très rationnel. Quel est le lien entre les astres et ma vie présente? On ne peut pas, et pas du tout, faire une quelconque expérience qui validerait ou vérifierait cette influence supposée. On pourra donc dire que les croyances en l'astrologie sont des croyances irrationnelles. Et on va dissocier ces croyances irrationnelles des croyances, en tout cas d'un certain nombre de croyances religieuses, qui, elles, portent sur des domaines qui, par définition, sont des domaines où on ne peut pas avoir d'expérience, mais en même temps qui posent des problèmes auxquels, eh bien, on est confronté en tant qu'être humain quand on s'interroge sur l'origine du monde, sur l'existence de notre âme, etc. Ce sont les questions métaphysiques. La question qui se pose donc, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les croyances, même irrationnelles, sont toujours aussi présentes, et a priori, toujours assez fortes malgré ces progrès de la science? Ça va être l'objet de cette deuxième partie. Le premier argument va consister à mettre en évidence le rôle de déterminisme plutôt psychologique dans la persistance des croyances. Le premier argument de cette partie consistera à montrer que la force des croyances est en lien avec les affects, c'est-à-dire les sentiments, les émotions que nous éprouvons, et en lien avec nos besoins du quotidien, c'est-à-dire en lien à l'utilité. Et ces affects, ils expliquent en effet une bonne partie de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, on en parle beaucoup, ce sont tous les mécanismes psychologiques qui nous incitent à adopter des croyances et surtout des croyances fausses. Biaisé, c'est un synonyme de faussé. Donc un biais cognitif, c'est une tendance de notre esprit qui vient fausser notre perception de la réalité, notre perception du monde et donc qui vient fausser nos connaissances. Alors, des biais cognitifs, il y en a beaucoup. L'un des biais cognitifs les plus connus, c'est celui qu'on appelle le biais de la majorité. Comme son nom l'indique, c'est le fait d'être entouré de personnes qui pensent tous la même chose. C'est le fait que une idée est majoritaire chez les gens qui nous entourent, qui va influencer notre propre jugement et nous allons avoir tendance à nous conformer à l'opinion majoritaire. Un autre biais extrêmement puissant dont on parle beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le biais de sélection. Vous connaissez, je pense, tous l'expression l'amour rend aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que l'affect que j'éprouve envers quelqu'un, ou envers une idée, envers un hobby, etc., etc., eh bien, cet amour, il va occulter tous les éléments potentiellement négatifs chez la personne que j'aime, la passion qui est la mienne, etc., etc. Au contraire, je vais avoir tendance à focaliser mon attention sur les éléments positifs. Et par conséquent, eh bien, je vais être dans une forme de bulle, c'est-à-dire que je vais renforcer, en ne voyant que les aspects positifs de ce que j'aime, ben je ne vais que renforcer l'amour que j'éprouve pour la personne ou pour la chose aimée. L'inverse est également vrai, hein. Si je déteste quelqu'un, a priori, je focaliserai sur les éléments négatifs qui renforcent ma croyance et mon affect initial. Et on voit ça, pourquoi on voit ça dans les réseaux sociaux? Eh bien, c'est parce que les réseaux sociaux, ils agissent exactement comme ce biais de sélection. Plus je vais regarder des vidéos sur un sujet, plus on va me proposer des vidéos allant dans le sens de ce qui, au départ, m'a plu. Et ça, c'est très dangereux du point de vue de la connaissance, puisque je ne vais avoir qu'une connaissance partielle de la réalité. Cela peut évidemment avoir aussi des conséquences dans la vie affective, par exemple, puisque quelqu'un que j'aime peut aussi être quelqu'un qui a de gros défauts qui peuvent éventuellement me faire souffrir, être toxique pour moi. Donc on voit bien comment nos affects et nos émotions ont des répercussions sur nos jugements, nos préjugés, nos connaissances, nos croyances. Et évidemment, du coup, on peut se demander s'il est possible, tout simplement, d'échapper aux croyances dès lors que nous sommes des êtres vivants, affectés par beaucoup de choses, ayant des sentiments, des émotions. Et c'est à cette question que répond notamment le texte de Spinoza que je vous propose en référence et que nous allons lire. Il s'agit d'un texte tiré de la préface au traité théologico-politique de Spinoza. Si les hommes avaient le pouvoir d'organiser les circonstances de leur vie au gré de leurs intentions, ou si le hasard leur était toujours favorable, ils ne seraient pas en proie à la superstition. Mais on les voit souvent acculés à une situation si difficile qu'ils ne savent plus quelle résolution prendre. Ils ne savent plus à qui s'en remettre, supplient le premier venu de les conseiller, tout prêts à suivre la suggestion la plus déplacée, la plus absurde ou la plus illusoire. La crainte est donc la cause qui engendre, entretient et alimente la superstition. Alors, première remarque, on voit que le texte, il commence par un si. Et de toute évidence, Spinoza introduit une hypothèse. En fait, il fait la fiction d'un monde qui est un monde qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un monde où, premièrement, de deux choses l'une, soit les êtres humains contrôlent absolument le cours de leur existence. Donc tout est sous contrôle, ils maîtrisent tout. Soit les êtres humains ne contrôlent pas forcément tout, mais le hasard leur est toujours favorable. Autrement dit, il imagine un monde où les hommes sont tout à fait heureux, tout à fait satisfaits, soit de leur fait, soit parce que ce monde est favorable. Et que nous dit Spinoza, c'est que dans cette hypothèse, dans ce monde-là, eh bien, il n'y aurait absolument aucune croyance irrationnelle. Les croyances sont liées au monde dans lequel on vit. Le problème, évidemment, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'est absolument pas celui-là. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas et où ben, nous allons vivre des moments de malheur, de tristesse. Le cours des choses n'ira pas dans notre sens ou dans le sens de nos intérêts. Et le fait que nous ne maîtrisions pas tout, que nous ne sachions pas ce qui va nous arriver demain, eh bien, cela a une influence psychologique, ça a une influence sur nos affects, sur nos émotions. En effet, en situation d'incertitude, qu'est-ce que nous allons ressentir, probablement, notamment si cette incertitude, elle porte sur des choses très très importantes de notre vie, eh bien, nous allons ressentir des sentiments de stress, d'angoisse, d'anxiété, ce que Spinoza nomme ici, de manière générale, la crainte. La plupart des êtres humains craignent tout simplement pour leur avenir. Et dans la mesure où, premièrement, La crainte et tous les affects connexes comme l'angoisse, le stress, etc., ce sont des affects extrêmement désagréables. Et dans la mesure où, deuxièmement, ces affects, ils ont comme cause l'incertitude vis-à-vis de l'avenir, eh bien, les êtres humains vont peut-être avoir tendance à avoir envie de réduire l'incertitude afin de réduire leur stress. Prenons l'exemple de ce qui attend les élèves de terminale, le baccalauréat. Il est tout à fait normal d'éprouver une forme de stress par rapport à l'incertitude concernant les sujets des épreuves. Et pour réduire ce stress, la majeure partie des élèves vont peut-être travailler. C'est la solution la plus simple, travailler pour être prêt à l'éventualité de n'importe quel sujet. Mais peut-être que d'autres élèves vont choisir des stratégies un petit peu plus irrationnelles, comme le fait de maximiser leurs chances, par exemple en portant leur t-shirt porte-bonheur, en se référant à leur horoscope, etc., etc., pour se rassurer. Pour prendre des exemples un petit peu plus historiques, on sait que les chefs de bataille de l'armée romaine et d'autres armées, en l'occurrence, cherchaient, avaient à leur côté des devins qui leur indiquaient si les signes étaient à leur avantage avant de lancer la bataille. Plus proche de nous, on sait que le président François Mitterrand, par exemple, prenait très régulièrement rendez-vous avec une voyante pour lui demander, c'est une question très connue, comment est-ce que je vais et comment va la France? Car le rôle des devins, des astrologues, des tireurs de cartes, des voyants, eh bien, c'est justement de réduire l'incertitude par rapport à l'avenir, de nous prédire ce qui va arriver. C'est en tout cas ce dont ils prétendent être capables. Et c'est bien ce qu'évoque Spinoza dans la deuxième partie du texte. Les êtres humains vivant dans l'incertitude permanente et ayant parfois à faire des choix extrêmement engageants pour leur vie, ne sachant pas ce qui va leur arriver dans des moments particulièrement charnières de leur existence, eh bien, ils vont aller très facilement peut-être croire ce que, en temps normal, ils considèrent comme n'ayant pas forcément beaucoup de valeur. Même les êtres les plus rationnels dans la vie courante peuvent, à certains moments de leur vie, tomber dans l'irrationalité. Et c'est en raison de cet affect fondamental face à l'incertitude qu'est la crainte. Nous allons remplir le texte à trous d'explications qu'il y a sous le texte de Spinoza. C'est parti. Il faut tout d'abord distinguer les croyances rationnelles. Chez Kant, la foi religieuse a pour origine l'idée de Dieu produite par la raison qui applique en dehors de l'expérience sensible le principe de causalité, et les croyances irrationnelles, comme la superstition, qui créent un rapport de causalité entre des faits là où il n'y en a pas d'un point de vue objectif ou scientifique. Exemple, il va m'arriver malheur parce que j'ai vu un chat noir un vendredi 13. Pour Spinoza, c'est l'incertitude concernant une situation future, et donc la difficulté pour la raison de l'expliquer ou de la prévoir, qui engendre ces faux rapports de causalité. En effet, l'incertitude a pour conséquence une passion, la crainte. C'est elle qui pousse notre esprit à recourir à la pensée magique et entrave la pensée logique. Les pratiques divinatoires sont des pratiques herméneutiques d'interprétation. Un devin, astrologue, voyant, cartomancien, interprète, c'est-à-dire donne un sens, à des signes comme la position des astres, les rêves, les entrailles des animaux, les cartes, les mouvements d'aiguilles, le marc de café. Ces signes sont souvent considérés comme des médiateurs entre le devin et le divin. Contrairement aux événements prédits par les scientifiques, qui sont nécessaires, car ils obéissent à des lois scientifiques, les événements sur lesquels portent les prédictions des devins sont contingents, les aléas de l'existence humaine. Pour Cicéron, dans le De la Divination, ces devins sont des charlatans, car on ne peut prévoir que les événements nécessaires et non les événements hasardeux. Alors, j'insiste un petit peu sur le caractère inéluctable de la persistance des croyances telles qu'elles émergent de ce texte, parce que Par définition, nous ne pouvons pas changer le monde dans lequel nous vivons. Il sera toujours soumis au hasard. Nous ne pourrons jamais prévoir les événements qui vont nous arriver. Et donc, nous vivrons toujours dans l'incertitude. C'est pourquoi on peut raisonnablement dire que on ne pourra jamais éliminer les croyances qui sont des croyances irrationnelles. Mais pour ce qui est d'autres types de croyances, qui sont des croyances, on va dire, moins, qui ne sont pas des superstitions, nos préjugés, nos croyances, nos positionnements politiques, nos valeurs, ou des croyances que nous pouvons avoir sur les gens qui nous entourent, sur les événements du monde, nos opinions de manière générale, eh bien, dans le domaine des opinions, c'est un petit peu la même chose qui se passe. C'est toujours, finalement, une question de sécurité qui va amener les êtres humains à préférer des croyances confortables, même si elles sont fausses, plutôt que de se remettre en cause, de se mettre dans une situation d'incertitude. Parce que rechercher la vérité, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on ne la possède pas. Ça signifie qu'il faut douter de nos croyances. Et c'est ce que nous disait Bachelard, ce que nous disait Descartes. Si je veux me mettre en recherche de la vérité, si je veux être un scientifique, eh bien, il faut d'abord que je remette en cause les croyances qui sont nécessaires à la vie de tous les jours, mais qui sont un obstacle quand il s'agit de réellement définir et trouver la vérité. Cela m'amène donc à faire un lien dans la suite de l'argumentation de cette deuxième partie avec l'allégorie de la caverne de Platon. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est justement ce caractère très confortable des opinions et des croyances fausses qui explique pourquoi il est si difficile de libérer ces prisonniers, pourquoi ils peuvent être en résistance par rapport aux philosophes qui tentent de leur permettre de se retourner et de sortir de cette caverne, parce que le chemin qui mène à la vérité, c'est d'abord un chemin qui apparaît comme étranger, comme difficile, qui demande de faire des efforts, et qui implique tout simplement de se remettre en cause. Ce qui heurte l'un des grands affects de l'être humain, qu'est son orgueil. Je ne vais pas épiloguer plus que ça sur la caverne, je vous renvoie au cours sur le sujet. Il reste à évoquer la fin de l'argumentation. On est toujours dans cette question des facteurs qui favorisent la croyance et qui s'opposent et qui, du coup, font obstacle à la science. Et parmi ces facteurs, donc évidemment, il y a les facteurs psychologiques, individuels, mais il y a aussi des facteurs auxquels on pense peut-être un peu moins, qui peuvent être les intérêts économiques ou les intérêts politiques. Je vous renvoie sur ce sujet à un documentaire très intéressant qui s'appelle « La fabrique de l'ignorance » qui est toujours en replay, je crois, sur le site Arte, mais qu'on trouve assez facilement sur YouTube et pour lequel je vous propose un résumé à trous dans la catégorie des exemples. Vous trouverez la correction dans le document écrit, dans le corrigé écrit, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre un exemple, l'un des exemples phares, hein, l'exemple de l'industrie du tabac, et de la façon dont elle a stratégiquement opéré des manipulations d'études scientifiques, financement d'études bidons pour justement noyer les recherches qui se faisaient sur le caractère néfaste du tabac, afin de, grosso modo, gagner du temps et pouvoir vendre et habituer le plus grand nombre de la population à user du tabac. Donc c'est un exemple intéressant, il y a des forces qui s'exercent sur la science, et la science, elle a besoin de financement notamment. Donc il y a des enjeux économiques qui peuvent être particulièrement lourds pour certaines industries, notamment quand celles-ci ont des conséquences sur l'environnement, sur la santé, etc., etc. Je vous conseille donc d'aller voir ce documentaire si vous avez un petit peu de temps. Il est vraiment très intéressant et très bien fait. Dernier argument de cette partie, ça consiste à montrer en quoi il peut y avoir des blocages et des résistances au sein même de la science, chez les scientifiques. Parce que l'histoire de la science montre que parfois le progrès de la science nécessite d'abandonner, parfois totalement, certaines théories qui pourtant étaient les théories qui faisaient consensus et qui étaient au cœur de la modèle scientifique dominant. L'exemple le plus connu et le plus intéressant, c'est évidemment l'exemple de la révolution copernicienne. Pendant 2 millénaires, on est parti du principe que la Terre était au centre de l'univers et qu'elle ne bougeait pas, qu'elle ne tournait pas sur elle-même, qu'elle était fixe. Cependant, ce modèle scientifique commençait à ne plus franchement fonctionner. C'est-à-dire que même si on arrivait à faire des prédictions, des calculs assez justes sur la trajectoire des astres, celle-ci était parfois un peu compliquée. Il fallait ajouter de nouvelles hypothèses. Et puis avec les nouveaux instruments qui étaient les télescopes, les instruments permettant d'observer le ciel de manière plus scrupuleuse, eh bien, il commençait à y avoir un certain nombre de thèses qui ne tenaient plus. Bon, je passe les détails. Donc, le seul moyen de s'en sortir, eh bien, c'était de changer complètement de modèle, de mettre le soleil au centre et à partir de là, de rétablir un schéma de l'ensemble du fonctionnement du système solaire. Et c'est ce que fit Copernic. Si vous regardez le schéma que je vous ai mis dans les exemples, ce qui est intéressant, c'est que vous avez côte à côte le modèle géocentrique, donc avec la Terre au centre, et puis à côté le modèle héliocentrique de Copernic. Parce que, certes, Copernic a eu cette idée de mettre le Soleil au centre, mais en fait, au départ, ça fonctionnait pas très bien pour élaborer les lois des mouvements des astres. Pourquoi? Eh bien, parce que même Copernic, il était un peu prisonnier d'une croyance, mais vraiment très ancienne, sur le fait que l'univers devait présenter une certaine forme de perfection, et notamment le mouvement des astres devait répondre au mouvement qui était considéré comme le plus parfait. Et la croyance voulait que le mouvement le plus parfait était le mouvement circulaire. Ainsi, vous voyez que dans ce modèle, eh bien, les planètes, elles tournent autour du Soleil, mais elles tournent selon un mouvement circulaire. Ce qui n'était pas du tout efficace d'un point de vue scientifique, et donc assez vite, Kepler notamment a mis en évidence le fait que la trajectoire des planètes autour du Soleil était une trajectoire elliptique. À partir de ce moment-là, eh bien, les calculs, les phénomènes étaient expliqués de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus convenable. Mais il a fallu abandonner une croyance, la croyance dans le mouvement parfait et circulaire des astres autour du Soleil. Voilà pour l'argumentation de cette deuxième partie, visant à montrer en quoi les croyances avaient une force, étaient renforcées par un certain nombre de conditions, des facteurs psychologiques premièrement, des facteurs éventuellement économiques, mais aussi tout simplement l'attachement aux théories anciennes qui formaient et qui ont souvent formé et qui forment encore pour les scientifiques des croyances tenaces.